RFI, grand reportage.
Le magazine de la rédaction est aujourd'hui en Israël, où pour la troisième fois en moins d'un an, les électeurs retournent voter pour élire leurs députés. Les précédents scrutins ont conduit à une impasse politique. Aucun parti n'a été en mesure de former un gouvernement. Mais ce lundi, les candidats en lice sont à peu près les mêmes que lors des précédents scrutins et les sondages n'indiquent pas de grands changements dans les rapports de force. Dès lors, faudra-t-il voter une quatrième fois ? Comment les électeurs israéliens vivent-ils cette crise inédite ? Sont-ils toujours prêts à aller voter ? Les Israéliens espèrent une solution à la crise politique. C'est un grand reportage de Guylaine Delter.
C'est un pays merveilleux. Eretz Nehederet en hébreu est une émission télévisée humoristique qui moque allègrement les responsables politiques du pays. Fin septembre, au moment de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, elle avait dressé sur son plateau une table de repas de fête et des acteurs incarnant les dirigeants israéliens étaient venus y prendre place.
Je vais inviter le monsieur qui a perdu les élections et qui va sans doute être le premier ministre, Benjamin Netanyahu.
Deux semaines après les deuxièmes élections législatives de l'année, la situation politique du pays restait figée. Benjamin Netanyahu était arrivé en deuxième position, derrière Benny Gantz, mais avait le soutien de plus de députés. Personne ne semblait en mesure de pouvoir former un gouvernement. Eretz Nehederet raillait ce blocage avec cette mise en scène d'un repas de fête. Chaque responsable politique apportait une partie du repas.
Et voilà, et Netanyahu a apporté les petits trucs en aluminium pour les repas qu'il a pris chez lui à la maison, dans la domicile officielle.
Le reste des repas qu'il a apporté.
En référence à cette affaire des frais de bouche de la résidence.
Eretz Nehederet est l'une des quatre émissions satiriques de la télévision israélienne. Eitan a été scénariste pour plusieurs d'entre elles. Cette crise politique fournit beaucoup de matière pour ses émissions, juge-t-il, mais conjuguée à la longévité au pouvoir de Benjamin Netanyahu, elle représente aussi un défi.
Je pense qu'on est coincé à raconter la même blague. Ça fait un an, ça fait 12 ans. Ben, Bibi magouille, Bibi pouvoir, Bibi autoritaire, religieux aime argent, arabe traître. On raconte les mêmes... C'est dur pour les écrivains, pour les scénaristes de répéter la même blague. Parce qu'on est arrivé au point que la réalité est plus absurde que n'importe quoi que je puisse écrire. Et ça fait un an.
Michal, sa femme, aime aussi regarder ses émissions quand elle en a le temps. Elle apprécie le ton, l'humour de ses programmes. Et dans ce contexte politique qu'elle juge pesant, elle y trouve un peu d'espoir.
Moi, la seule chose que je vois positive dans ces émissions... C'est que quand il y a de la satire ou de la comédie par rapport à ces événements, c'est qu'il y a encore de la démocratie. Dans toute cette incertitude, c'est la seule chose qui me rassure un peu finalement.
Ouais.
Qu'on peut encore rire. Alors c'est peut-être les mêmes blagues, c'est vrai que ça fait un an que ce sont les mêmes blagues plus ou moins, parce qu'on évolue dans cette situation, enfin, sans vraiment évoluer en fait, on est plutôt stagnant. Mais au moins on peut en rigoler.
Depuis décembre 2018, Israël n'a plus de gouvernement en fonction, simplement un gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes. Les décisions à long terme sont reportées, les nouveaux projets d'infrastructure ne sont pas lancés, aucun budget n'a été voté pour l'année 2020. C'est donc celui de 2019 qui a été reconduit et cela pose un problème, relève Dan Katarivas de l'Association des industriels israéliens, l'organisation patronale nationale.
Une partie de l'activité économique est liée aux dépenses gouvernementales. Et quand on se trouve dans une situation où depuis presque un an, il n'y a pas de budget qui a été voté, et comme en Israël, qui est un pays jeune avec une croissance naturelle de natalité de presque 2%, les budgets doivent augmenter presque de 2% pour rester le même, si je puis dire. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, le budget de l'éducation nationale, ou le budget de la santé, ou le budget social, il y a le pilote automatique qui fait augmenter les budgets en relation avec la croissance de la population. Et là, on trouve que les budgets donc, sont presque réduits d'une façon réelle.
L'impact se fait surtout sentir sur les projets d'infrastructure, la construction d'écoles, le fonctionnement des hôpitaux ou l'aide aux personnes âgées, estime Dan Katarivas. Elle a des conséquences aussi pour les ultra-orthodoxes, cette partie de la population affichant une foi très forte. Shalhevet Adarom, la Flamme du Sud, est un établissement religieux. Chaque homme inscrit, dédiant sa vie à l'étude des textes du judaïsme, reçoit une aide financière de l'État. Mais celle-ci a baissé, note le rabbin Daniel Ben Soussan, directeur de l'établissement.
Chaque père de famille qui étudie là, on recevait 700-800 shekels par mois. Mais ce dernier mois, on a reçu 550 shekels. Ça a déjà baissé. Pour quelqu'un qui étudie, 200 shekels, c'est encore beaucoup pour lui. Ça vient, j'ai entendu que c'est parce que le gouvernement est vraiment temporaire.
Yoni Tayari aussi est touché par l'absence d'un gouvernement en fonction. Ce jeune homme, lui, a monté une entreprise avec 4 autres partenaires. Il veut se lancer dans la production de cannabis médical. Pour cela, il a besoin d'un investissement de départ de 4 millions d'euros. Mais l'aventure n'est économiquement viable que s'il peut exporter sa production.
Tout le monde pensait à l'exportation, tout le monde l'attendait. Ils ont commencé à en parler dans le gouvernement précédent, ils l'ont autorisé. Le problème, c'est comment on s'y prend. Les décisions sur l'affectation de personnel et toutes les procédures qui doivent permettre l'exportation ont été gelées. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a cessé de fonctionner. C'est lui qui doit financer les différentes agences qui seront impliquées dans l'exportation. Et à cause de cet arrêt, les investisseurs sont frileux. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Si l'exportation n'est pas possible, il n'y a pas de raison d'entrer dans le domaine du cannabis médical. Et c'est cela qui nous pénalise.
Dans son ensemble, l'économie israélienne se porte bien. Le chômage se situe à 3,9% de la population active en 2019 et les prévisions tablent sur près de 3% de croissance en 2020. Mais le coût de chaque élection, estimé à environ 350 millions d'euros, est également pointé du doigt. L'argent pourrait être dépensé à des fins plus utiles, regrette ce propriétaire d'un salon de coiffure.
Cet argent aurait pu financer les hôpitaux, les médicaments et aider les personnes malades. Il aurait pu faire baisser le coût de la vie. Le prix des fruits et légumes et des aliments augmente alors qu'il aurait pu baisser si cet argent n'allait pas inutilement à nouveau pour l'organisation des élections. Celui qui reçoit 2000 shekels d'allocation ne peut pas vivre convenablement. S'il n'y avait pas à nouveau des élections, ils auraient pu leur donner plus d'argent.
Mais malgré l'agacement, les électeurs n'ont pour l'instant guère marqué leur mécontentement. Aucun camp politique ne se voit attribuer la responsabilité de l'impasse. Dimona est une ville située dans le désert du Negev, entre la mer Morte et la ville de Beersheva. Avec 40 000 habitants, c'est une ville de taille moyenne. Reculée, elle est considérée comme une localité de la périphérie, loin des centres urbains que sont Tel Aviv et Jérusalem. Dimona est un fief du Likoud de Benjamin Netanyahou.
Dimona, c'est Netanyahou. Plein, c'est Dimona Netanyahou, oui. Il est bien pour nous, il est bien. Pour cette ville, c'est bien. Il y a du travail, il y a tout, les gens y vivent. C'est pour ça.
Il a aidé Dimona ?
Oui, il donne l'argent à Dimona. Oui. Pas pour Dimona, il donne pour tout le monde.
En septembre dernier, 55% des suffrages exprimés dans cette ville étaient en faveur du Premier ministre sortant. Et sa cote de popularité reste très élevée. Trois hommes sont attablés dans un café loto du centre-ville et lorsque le nom de Benjamin Netanyahou est évoqué, il se lance dans une surenchère d'éloges. C'est un des meilleurs dirigeants au monde, juge l'un, quand un autre le qualifie de bon politicien. C'est un génie, conclut finalement le troisième. À une table voisine, Yafa boit son café en fumant une cigarette et elle aussi tient à exprimer son soutien à Benjamin Netanyahou.
Il a beaucoup d'expérience, ça compte. Les gens continuent de voter pour lui sans arrêt, malgré tous les problèmes qu'il a face à lui. C'est un bon diplomate, il agit pour la sécurité. Il demeure un bon dirigeant, à mon avis.
Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait faire aussi bien que lui ?
Non. Absolument pas, ce serait un désastre.
Et pour ses électeurs convaincus, les affaires de corruption pour lesquelles Benjamin Netanyahou va être jugé pèsent peu.
Si le Premier ministre recevait un salaire élevé, il n'aurait pas eu besoin de voler. Mais son salaire n'est pas suffisant, alors donnez-lui plus d'argent et il n'aura pas besoin de voler. Mais je n'ai pas de problème avec le fait qu'il vole. Tout le monde vole, ce sont tous des voleurs.
Autour de la table, les deux autres grincent un peu des dents. Pour eux, les accusations visant Benjamin Netanyahou n'ont aucun fondement.
Il ne manque pas d'argent.
Tous les dirigeants du monde ont reçu la même chose que lui. Ce sont uniquement des cadeaux et il n'y a qu'en Israël qu'on rend ça criminel.
Les élections passent, la procédure judiciaire avance et rien ne semble pouvoir détourner ses électeurs de leur soutien à Benjamin Netanyahou.
Alors, là, pour le coup, c'est par là. Tu vois, Aurel Moshe, c'est ici.
Si la droite semble serrer les rangs, l'opposition, elle, a retrouvé l'espoir d'une alternance. Après 11 ans de gouvernement Netanyahou, la possibilité d'un changement semble possible. À l'occasion de cette campagne, Xavier Alexandre et Noémie ont décidé d'entrer en politique. Tous deux, Israéliens depuis peu, après avoir immigré de France, ont rejoint la campagne de Bleu-Blanc, la coalition menée par Benny Gantz, le principal adversaire de Benjamin Netanyahou.
Pour moi, ce pays, c'est la terre promise. Hein. Mais ce n'est pas le paradis. Ça, je le savais avant de venir, puisque ça fait quand même 10 ans que j'y vis, même si j'ai fait Alia formellement il y a à peu près un an. Il y a beaucoup à faire. Il faut qu'on transforme ce pays en paradis. Ça, c'est ce que nous devons faire.
Noémie acquiesce. Pour cette quadragénaire, les besoins de changement sont criants dans les domaines économiques et sociaux.
Là, je travaille comme serveuse. Je gagne 29 shekels de l'heure. Ça fait 7 euros. Donc, en fait, les Israéliens travaillent 70 heures par semaine pour avoir un revenu correct. Voilà, moi, comme j'étudie, je ne peux pas travailler autant. Mais les conditions de vie sont difficiles. C'est un pays riche, il y a la manne du gaz dans la mer. Il faudrait une redistribution des richesses, là, au point de vue des droits sociaux, de la sécurité sociale. Là, par exemple, dans les petites entreprises, si on est au boulot et qu'on se casse le poignet ou une jambe, ben, en fait, on est mis à pied et basta. Il n'y a pas d'accident de travail, ça n'existe pas ici.
Et pour les adversaires du Premier ministre sortant, mis en examen dans 3 affaires de corruption, les valeurs morales de cette coalition sont aussi primordiales.
Quand on se retrouve avec un Premier ministre qui n'est pas seulement mis en accusation, mais il est inculpé et maintenant même il va comparaître, donc on est bien au-delà des mises en accusation françaises en fait, on a un problème. Donc une des premières choses que notre parti souhaite, et ça c'est une des raisons pour lesquelles je rejoins au départ, c'est que si l'un des membres du parti est mis en accusation, étant au gouvernement, il va démissionner immédiatement.
Xavier Alexandre a déjà voté bleu-blanc en septembre dernier, mais c'est l'impasse politique qui l'a poussé à devenir militant.
Un peu comme Naomi, j'ai voté dans les élections précédentes, puisque j'avais juste fait Alia. Et juste après, quand on a la troisième élection se sont profilées, je me suis dit quand même, là, il faut que je m'y mette. Quoi.
C'est la troisième campagne, en fait, qui vous incite.
C'est la troisième campagne qui m'a fait réagir. Voilà. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens comme nous, en fait, qui maintenant se... On rejoint soit à la deuxième, soit à la troisième, et qui n'avait pas un passé de militant. Alors ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on a 15 000 militants dans le pays en ce moment, qui donc font ce que nous faisons.
À quelques jours du scrutin, Xavier Alexandre et Noémie parcourent les rues du centre-ville de Jérusalem et les ruelles du principal marché de la ville. En soirée, les restaurants et bars attirent à Machane Yehuda beaucoup de monde. Certains électeurs échangent volontiers avec eux. D'autres affichent d'emblée leur affiliation politique. Rak Bibi, uniquement Bibi, le surnom de Benjamin Netanyahou, lance une jeune femme. À Jérusalem, ce genre d'interpellation n'est pas rare. La ville vote majoritairement pour la droite, mais il faut savoir s'adresser à ses électeurs, juge Noémie.
Les gens à qui je m'adresse, lui coudent. En fait, il faut trouver un discours qui leur parle. Moi, les gens que je rencontre, les Français que je rencontre religieux, ils pensent que si on est religieux, on vote Likoud. Or, pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire pour moi, un vrai religieux, quelqu'un qui prend vraiment en compte les principes moraux qui doivent découler de respecter les lois religieuses, c'est aussi vouloir un dirigeant qui soit honnête, qui soit droit, qui soit moral, qui n'ait rien à se reprocher. Moi, je trouve ça complètement absurde que quelqu'un qui se dit religieux, qui respecte des principes moraux qui sont difficiles, qui a un chemin de vie d'études et de réflexion, puisse voter pour quelqu'un qui ne respecte absolument rien.
En engageant le dialogue, ces militants bleu-blancs espèrent faire bouger les équilibres politiques. La participation de la communauté arabe israélienne sera aussi l'une des clés du scrutin. Celle-ci était faible lors des premières élections de 2019, mais elle a augmenté en septembre dernier. 3 députés arabes de plus ont fait leur entrée au Parlement. Et Nasrin Abdelhaï, habitante de la ville d'Al-Tireh, veut croire que le soutien à la liste unique, coalition de partis arabes, sera encore renforcé lors de ces 3e élections.
En votant, nous allons exprimer notre opinion et on va leur donner plus de sièges. Et ça, ça va empêcher les autres de pouvoir constituer un gouvernement, comme la dernière fois. Ça, c'est notre influence.
C'est important pour vous d'essayer de barrer la route à Benjamin Netanyahu ?
Bien sûr. Le plus important, c'est de stopper Netanyahu. Il n'aime pas la paix. En fait, il a plusieurs personnalités. Une fois, il dit que les Arabes n'ont rien à faire ici et qu'il faut les dégager. Et une autre fois, il oublie ce qu'il avait dit. Mais nous, on n'oublie pas.
Depuis la présentation du plan de Donald Trump pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien, plusieurs manifestations ont eu lieu dans les villes arabes. Le projet de l'administration américaine prévoit d'en transférer certaines au futur État palestinien, menaçant leurs habitants de perdre leur citoyenneté israélienne. À 10 jours du scrutin, la question des élections était au cœur du prêche de la prière du vendredi dans la grande mosquée de Jadjoulia. L'imam appelle à aller voter en masse pour la liste unie pour protester contre le plan Trump et affirmer les droits des citoyens arabes. Ahmed Shawana est un jeune vendeur dans le secteur de la téléphonie.
Nous sommes une grande partie de cet État. Nous représentons 2 millions de personnes dans l'État israélien. On est là et on va rester là. Il faut qu'on prenne nos droits comme n'importe quel autre citoyen de cet État. Qu'on soit juif, éthiopien, arabe, druze, on doit avoir les mêmes droits. Parce qu'il n'y a pas de différence.
Amira est une jeune femme de 19 ans. L'an dernier, elle avait pour la première fois l'occasion de voter. Mais elle n'a pas exercé ce droit. Cette fois-ci, en revanche, elle ira voter.
Je sens qu'il faut du changement. Pourquoi la troisième fois ? Parce que maintenant, il faut qu'on décide. Ça suffit. Nos voix sont fortes. La deuxième fois, elles étaient importantes. Et cette fois-ci, encore plus. Tout le monde veut voter. Tous s'encouragent à aller voter. Et ça sera important cette fois.
La participation électorale est un geste politique, une façon de revendiquer une place dans la société. Mais cette intégration a une limite tout de même aux yeux de Nasrin Abdel-Hay. L'entrée au gouvernement, cette sexagénaire se définit comme une citoyenne palestinienne sous autorité israélienne.
Le cabinet décide de lancer les attaques contre nos frères à Gaza, contre des frères à nous qui sont en Cisjordanie. Évidemment, on ne peut pas participer à ça avec eux.
Le vote des Arabes est courtisé par la liste unie, mais aussi par les partis de centre-gauche. La communauté représente un cinquième de la population israélienne, une minorité, mais qui pèse. Et si elle se mobilise, elle pourrait se placer au cœur du paysage politique, estime Youssef Jahabarin, député sortant et l'un des dirigeants de la liste unie.
Il ne peut pas y avoir de gauche sérieuse en Israël sans nous, car nous sommes la réelle alternative. Mais quand je dis nous, je ne parle pas de notre organisation, mais de notre vision politique. La vision politique doit être celle de l'égalité entre les citoyens, de la paix et reconnaître le droit aux Palestiniens à l'autodétermination. J'espère que de plus en plus d'électeurs juifs vont croire avec nous que c'est le seul espoir pour les deux peuples et la seule alternative pour une paix sincère dans notre région.
Mais d'un scrutin à l'autre, les équilibres politiques ne semblent guère évoluer. La perspective d'une nouvelle impasse se dessine. Tout changement nécessite du temps, souligne Ilan Grelzheimer, professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv et au collège universitaire d'Ashkelon.
Les élections ont été trop rapprochées pour que les gens changent. Et donc, il y a des changements, mais sur les bordures, comme ça. Oui, il y a des choses qui peuvent, cette fois-ci, changer. C'est essentiellement le taux de participation. Dans quelle mesure des gens qui sont abstentionnistes vont sortir de chez eux et voter ?
La participation comme clé du scrutin, mais la lassitude pourrait nourrir l'abstention. Un sondage publié vendredi par le quotidien Israel Hayom indique que près de 4 électeurs sur 10 prévoient déjà de quatrièmes élections.
Les Israéliens espèrent une solution à la crise politique. Un grand reportage de Guilhem Delteil, réalisation Eva Piedel.
RFI, c'est